Bonsoir. Retombé de la visite du patron du Fonds monétaire international à Kinshasa, le gouvernement congolais promet d'arracher un nouvel accord formel avec le FMI d'ici juillet 2009. Promesse du Premier ministre Adolphe Mouzito à Dominique Strauss-Kahn, le patron du FMI, qui a bouclé hier lundi par Kinshasa sa visite de deux jours en RDC. Les contrats chinois étaient au centre des entretiens entre le gouvernement congolais et le patron du FMI. Les mêmes contrats préoccupent aussi les députés nationaux. Ils l'ont dit ce mercredi en plénière. Une question orale ou écrite pourrait même être adressée au Premier ministre et quelques membres de son gouvernement. C'est pour éclairer les élus du peuple. C'est la conclusion d'une motion initiée par le député national Jean Bamanita. Son souhait, que les contrats chinois ne bloquent pas les relations entre la RDC et ses bailleurs traditionnels dans le Fonds monétaire international. Comment le gouvernement congolais compte-t-il s'y prendre, notamment pour arracher un nouveau contrat avec le FMI? Un nouvel accord avec cette institution financière pourra-t-il cohabiter avec les contrats chinois? Voilà le sujet de cette émission. Nous recevons comme invité Patrice Ezassi. Il est sénateur, membre du CPRD et vice-président de la Commission économique, financière et de bonne gouvernance du Sénat. Bonsoir, sénateur.
Bonsoir, monsieur Jean-Claude.
Oui, en face de lui, Jean-Lucien Boussa, député national, membre du MLC. Il est aussi vice-président de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Et nous avons le professeur François Kabouya, enseignant de macroéconomie à l'UNIFIL. Il intervient au téléphone. Professeur, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Voilà, bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Retombée de la visite du patron du Fonds monétaire international à Kinshasa, le gouvernement congolais promet d'arracher un nouvel accord formel avec le FMI d'ici juillet 2009. Comment le gouvernement compte-t-il s'y prendre? La RDC devrait encore attendre quelques semaines, voire quelques mois, avant de conclure un nouvel accord formel avec le FMI. Principale cause, les contrats chinois dans leur format actuel, a indiqué le directeur général du FMI au cours d'un point de presse bouclant sa visite hier lundi en RDC. Pour Dominique Strauss-Kahn, il reste à trouver des modalités techniques qui n'alourdissent pas la dette antérieure estimée à 11 milliards de dollars. En réaction, le Premier ministre congolais a indiqué que son gouvernement va travailler urgemment pour arracher un nouvel accord formel avec le FMI d'ici de juillet 2009. Les propos d'Adolphe Mouzito sont recueillis par Nazer Koko. On l'écoute.
Le gouvernement veut et a d'ailleurs déjà commencé à discuter avec les amis chinois pour des réajustements possibles de manière à rendre compatibles ces contrats avec les conditionnalités aussi bien du FMI que des bailleurs bilatéraux. D'ailleurs, nous, lors de notre séance de travail, nous avons engagé le FMI à nous accompagner à ces sujets. Mais aussi, le gouvernement est disposé, avec l'accompagnement du FMI, de discuter avec nos partenaires bilatéraux traditionnels, de manière à leur assurer que nous échangeons et que nous sommes en train d'avancer. Nous avançons et nous voulons bien que nous entrions au programme sans particulièrement attendre des idées de faisabilité. Pour cela, nous allons lever un certain nombre d'options au niveau du gouvernement, en discussion avec les partenaires bilatéraux, mais aussi avec nos amis chinois, pour que plus ou moins les garanties soient accordées de manière à ce qu'on entre en programme de juin et juillet.
Sénateur Patrice Ezassi, comment vous avez trouvé ou accueilli la réaction du gouvernement congolais face à la position du FMI?
Oui, le gouvernement est en processus de négociation avec les institutions de Bretton Woods, spécialement avec le Fonds monétaire international dont le directeur général vient d'effectuer une visite chez nous ici. Je crois que l'objectif pour le gouvernement, d'abord, c'est d'atteindre le point d'achèvement. Atteindre le point d'achèvement et ensuite aussi essayer de maintenir les contrats chinois dans la mesure où le réaménagement permettrait un certain assouplissement des conditions parce que le gouvernement dit clairement qu'il est en discussion avec les Chinois. Il est aussi en discussion avec ses bailleurs bilatéraux et traditionnels. L'objectif pour nous, Congolais, c'est que les deux aillent ensemble, aboutissent sans nuire à l'autre. Dire non au contrat chinois, c'est une aberration. Dire non au FMI, c'est aussi une aberration. L'idéal, c'est qu'on puisse concilier ces deux éléments pour arriver à un résultat. Mais en attendant que les négociations avec les Chinois continuent, mais il ne faut pas que le FMI refuse qu'on puisse aller en programme. Donc, tout en allant en programme, il faut qu'on tienne compte des contrats chinois.
Voilà. Et qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Lucien Bossa?
Non, mais il est clair que le Fonds monétaire international, lorsqu'il intervient dans un pays membre du reste, surtout en situation que des crises, c'est dans l'ordre normal des choses.
Oui. Mais est-ce que la position du gouvernement congolais est réaliste?
Non, moi je voudrais simplement dire que c'est une position que je considère comme étant à la fois ambiguë, parce qu'il faut clarifier la position. Vous savez que nous sommes devant un véritable dilemme. Entre, d'une part, les objectifs ou le besoin d'allègement substantiel de notre dette extérieure, et donc l'attente du point d'achèvement. L'attente du point d'achèvement va nous permettre de pouvoir, annuler, bénéficier de l'annulation de plus de 9 milliards de dollars de notre dette. D'une part, le poids allégé du service de la dette sur notre budget. Ça va nous permettre donc d'orienter les ressources qui, jadis, sont orientées dans le paiement du service de la dette vers le secteur de reconstruction nationale. Et donc, ça nous permet à la fois d'ouvrir la porte des bailleurs de fonds traditionnels, n'est-ce pas, afin de nous permettre d'obtenir probablement, d'ailleurs sûrement, n'est-ce pas, des crédits ou des financements substantiels supplémentaires, mais surtout d'entrer en programme avec le Fonds monétaire international. Comme vous savez, nous ne sommes pas en programme avec le Fonds monétaire international.
De manière formelle.
De manière formelle. Et donc, le contrat chinois nous pose deux problèmes essentiels. D'abord, premier problème, des taux d'intérêt non concessionnels. 6,1%.
C'est-à-dire
6,1% des taux d'intérêt. N'est-ce pas? Alors que les taux concessionnels nous permettraient de nous arrêter au maximum au niveau de 1%, d'une part. D'autre part, il y a cette problématique de la garantie de l'État. Au cas où le concession minière mise à la disposition des groupements d'entreprises chinois ne permettait pas de rembourser les prêts chinois, l'État congolais a accepté que d'autres concessions, d'autres ressources et d'autres moyens pourraient être mis pour pouvoir rembourser cette dette-là. Donc, le problème est le suivant. Nous avons besoin de financements importants pour notre reconstruction, certes. Nous avons par ailleurs besoin de pouvoir annuler nos dettes, certes, mais nous n'avons pas besoin d'alourdir ces dettes en prenant des engagements qui ne permettent pas à la République de pouvoir souffler.
Oui, c'est ça la problématique.
Oui, c'est la problématique, excusez-moi Jean-Lucien Boussa, mais quand le gouvernement accepte quand même de discuter avec les Chinois, et le Premier ministre a dit qu'il a déjà entamé ces discussions, est-ce que c'est pas...
Non, mais c'est très positif,
justement. Parce que nous avons toujours estimé, d'ailleurs, lorsque le débat sur les contrats chinois était mené au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons été de ceux qui ont estimé qu'il fallait ajuster les contrats chinois, le rendre compatible avec la capacité du pays à pouvoir rembourser ses dettes, mais en même temps, ne pas perdre au pays l'opportunité de pouvoir atteindre le point de l'achèvement et donc bénéficier de l'annulation de ces dettes.
Voilà. Professeur François Kabuya, votre point de vue justement sur la manière dont le gouvernement congolais s'y prend pour essayer de revoir les contrats chinois et aussi alléger la dette.
Bon, écoutez, je pense que il y a d'abord une chose qu'il faudrait observer. Quel est le degré de conviction du gouvernement dans ce qu'il a entrepris comme démarche? Est-ce que le gouvernement essaie éventuellement de donner l'impression qu'il voudrait répondre aux desiderata du Fonds monétaire?
En tout cas, c'est l'impression que le Premier ministre a donné.
Bon, en fait, dedans, quel est le degré de conviction? Parce qu'en fait, nous devons savoir qu'est-ce qui est urgent pour le moment. Parce que si on regarde les choses en face, je pense que l'allègement de la dette arrive en premier lieu, c'est prioritaire. Par contre, la conclusion des contrats chinois ou l'exécution de ces contrats-là, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Donc à nous de savoir ce que nous voulons obtenir dans l'immédiat pour pouvoir aller de l'avant.
Vous vous dites qu'il faut attendre, mais il y a des auditeurs, notamment Freddy Adubango, lui, il estime que la position du patron du FMI prouve que les contrats chinois ont été mal négociés. Est-ce que, sénateur Isati Mereko, vous pensez, comme cet auditeur, qu'avec cette position qu'a affichée Dominique Strauss-Kahn, que les contrats chinois finalement étaient mal négociés?
Je ne dirais pas que les contrats chinois étaient mal négociés. Dans toute négociation, il y a des points qu'on perd et il y a des points aussi qu'on gagne. Sur le plan de la position du gouvernement, la position du gouvernement, à mon avis, est très claire. Le gouvernement évolue avec deux éléments. Le premier, atteindre à tout prix le point d'achèvement pour permettre au pays d'être doté des ressources qui étaient jadis affectées au service de la dette pour ses besoins de reconstruction. De l'autre côté, dans le cadre des contrats chinois, il y a les infrastructures qu'il faut réhabiliter. C'est aussi un élément important pour le pays, les infrastructures. Et s'il y a eu l'un ou l'autre élément, par exemple le cas des taux d'un contrat chinois qui n'est pas concessionnel, c'est des choses qu'il faut négocier. Et ensuite, du point de vue de la garantie de l'État, qui fait aussi quick dans ces contrats, c'est aussi un élément qu'on peut négocier.
Mais parce qu'on se rappelle quand même, sénateur, qu'à l'époque, de la part des ministres du gouvernement congolais, c'était une sorte d'arrogance quand même face aux bailleurs traditionnels tels que le FMI.
Arrogance, je ne le dirais pas.
Ouais, c'est les contrats chinois, on a entendu ça.
Tout dépend qui négocie pour atteindre quel objectif. Le gouvernement dit qu'il est en négociation avec les partenaires bilatéraux traditionnels et puis il est en négociation avec les Chinois dans le cadre de ces contrats. Il se pourrait que les Chinois acceptent la révisitation de ces contrats.
Vous pensez qu'ils vont adopter?
J'estime que oui. Ce sont des partenaires. Lorsqu'on a un partenariat, il y a des concessions qu'on se fait pour d'autres choses. Les besoins de notre pays n'est pas en termes de millions, mais en termes de milliards. Les infrastructures dont on a besoin maintenant ont besoin de beaucoup de milliards. Alors, même si on arrivait à atteindre le point d'achèvement, il y a l'FMI, c'est un facilitateur. Il ne développe pas, il ne draine pas ses fonds pour le développement. Non, c'est un facilitateur dans le cadre du financement mondial. Alors, à ce titre-là, moi j'estime que puisqu'on accepte de négocier, dans les négociations, on trouvera des ouvertures qui permettront à ce que le gouvernement garde les deux points sur lesquels il faut baser le démarrage de notre économie.
Voilà. Il faut juste rappeler qu'à propos des contrats chinois, ils prévoient un prêt d'environ 9 milliards de dollars américains à la RDC, dont 6 pour développer les infrastructures et 3 pour relancer le secteur minier. Ce prêt est partiellement remboursable à titre minier. Professeur François Kabuya, vous pensez que ça sera facile pour la partie congolaise de convaincre les Chinois sur ces contrats?
Ben, comme l'honorable sénateur vient de le dire, je crois que c'est une question de négociation. Ça dépend des arguments que les uns et les autres vont mettre sur la table. Mais puisque dès le départ on a parlé d'un contrat de type gagnant-gagnant, ben, il faudrait que les uns et les autres puissent faire des concessions pour qu'on arrive effectivement à un contrat gagnant-gagnant.
Et comment le gouvernement congolais devrait justement s'y prendre pour convaincre les Chinois?
Oh là, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser comme argument.
Hein. Parce que c'est quand même un contrat qui doit s'étaler sur 30 ans hein, en termes de remboursement.
Oui, c'est exact. Mais je pense que c'est une occasion qui nous est offerte pour pouvoir examiner de plus près les retombées de ces contrats-là. J'ai l'impression que, sans se poser la question sur le type même de développement que nous voulons avoir, nous allons de nouveau niquer devant un mur. Je voudrais dire en fait que le contrat chinois va reproduire en quelque sorte les chaînes de développement axées toujours sur l'industrie minière. Et nous savons quelles sont les limites d'un tel schéma.
Oui, l'industrie minière qui est en crise en ce moment. Et Jean-Lucien Boussa, il y a d'autres auditeurs tels qu'Augustin Mwango qui nous écrit de Kindu. Lui, il pense que le gouvernement congolais ne saura pas signer un nouvel accord avec le FMI puisqu'il est enfermé dans sa propre prison qu'est le contrat chinois. Gilbert de Boutembo lui dit que perdrait la RDC en coupant le pont avec le FMI, puisqu'avec le contrat chinois, mal ou bien négocié, on ne doit pas y renoncer parce qu'on voit avec ces contrats un début de solution. Qu'est-ce que vous pensez de ce que disent nos auditeurs, Jean-Luc Boussa?
Non, mais d'abord, il s'agit d'une question de cohérence de politique interne, de politiques économiques et sociales internes. Si les politiques étaient cohérentes, les détenants de notre débat d'aujourd'hui, point d'achèvement, contrat chinois, devaient être gérés déjà en amont, en considération de toutes ces contraintes, n'est-ce pas? Et donc, aujourd'hui, il est un fait que si le gouvernement congolais ne renégocie pas correctement les contrats chinois pour les rendre compatibles avec les besoins exprimés par les bailleurs de fonds, par l'estrichement du Fonds monétaire international, n'est-ce pas? En termes de points d'achèvement, il sera difficile, en tout cas, pour la République démocratique du Congo de pouvoir signer un programme, n'est-ce pas, avec le Fonds monétaire, un programme économique avec le Fonds monétaire international et bénéficier donc des ressources promis dans le cadre de ces programmes-là. D'autre part, par rapport à l'auditeur qui estime que le gouvernement doit s'accrocher, n'est-ce pas, au contrat chinois, j'y trouve c'est une aberration, peut-être de moins fort.
Oh, ouais, ça semble fort.
Oui, de moins fort, mais il n'y a que ce mot-là. Mmh. Une aberration parce qu'aujourd'hui, déjà que le contrat chinois, comme on l'a indiqué, porte les germes d'un endettement qui risque d'être supporté par les générations à venir, mais qui va hypothéquer considérablement la possibilité pour nous, et c'est une urgence, de bénéficier de l'allègement de nos dettes, je dirais que c'est une aberration de s'accrocher exclusivement au contrat chinois. Il faut trouver les mécanismes qui permettent, à défaut de pouvoir avoir les deux en même temps, de faire le meilleur choix. Le meilleur choix aujourd'hui, pour ma part, c'est de privilégier le point d'achèvement. Parce qu'il permet des ouvertures vis-à-vis des bailleurs de fonds. Et d'ailleurs, le directeur général du Fonds monétaire international fait des promesses là-dessus. Il dit, dès lors que nous manifestons notre volonté, notre détermination à pouvoir atteindre le point d'achèvement, le Fonds monétaire international est prêt, tenant compte du contexte économique et financier de la République démocratique du Congo, secouée à la fois par la crise alimentaire, mais en même temps par la crise financière internationale, de pouvoir venir au chevet de la République démocratique du Congo pour lui permettre de sortir de la crise, pour plusieurs raisons, cher ami. Mmh. La première raison, c'est de permettre de stabiliser les cadres macroéconomiques. Celui-ci stabilisé va réduire le poids d'endettement, si on a atteint le point d'achèvement. Mmh. Celui-ci stabilisé permet l'attrait des investissements directs étrangers, mais en même temps, faciliter l'obtention des financements supplémentaires et donc permettre de booster la croissance de la République démocratique du Congo.
Donc, on comprend pour vous qu'il faut privilégier le point d'achèvement, pardon. Vous avez pratiquement anticipé sur ce qu'on devait aborder dans la seconde partie de cette émission. C'est le temps pour moi de rappeler à ceux qui viennent de se joindre à nous que nous parlons des retombées de la visite du patron du Fonds monétaire international à Kinshasa. Le gouvernement congolais promet d'arracher un nouvel accord formel avec le FMI d'ici juillet 2009. Un nouvel accord avec le FMI pourra-t-il cohabiter avec le contrat chinois? Nous en parlons juste après ce rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 738.
Alors, un nouvel accord avec le FMI pourra-t-il cohabiter avec les contrats chinois? Le directeur général du FMI, qui bouclait son séjour congolais, a reconnu dimanche dernier devant la presse chinoise que des avancées significatives ont été accomplies dans les relations RDC-Fonds monétaire international, mais le patron du FMI a aussi affirmé que certains problèmes doivent être résolus avant la conclusion d'un accord entre les deux parties. Parmi ces problèmes se trouvent évidemment les investissements étrangers avec en toile de fond les contrats chinois. Avant cette déclaration, Dominique Strauss-Kahn venait de s'entretenir notamment avec le président de la République, le Premier ministre et une délégation ministérielle composée entre autres du gouverneur de la Banque centrale du Congo. On écoute le directeur général du FMI, Dominique Strauss-Kahn, dans ses propos recueillis encore une fois par Nazaire Koko.
Je pense que nous avons fait des pas en avant dans les relations entre la RDC et le Fonds. Il reste quelques problèmes à résoudre, bien sûr, mais j'ai une bonne confiance que nous pourrons trouver une solution dans les semaines qui viennent. Il n'y a pas de différends. Les différends, c'est lorsqu'on a des positions contraires et que personne ne veut écouter l'autre. Nous savons, les uns et les autres, qu'il y a des questions techniques à régler pour que les choses se passent au mieux. pour la RDC. Je crois que le Premier ministre et le Président sont d'accord avec moi qu'il faut trouver des solutions à ces problèmes. On n'a pas encore trouvé. Il y a des aspects techniques qu'il faut travailler. Le programme avec le fonds, l'allègement de la dette, les investissements étrangers, il y a différents sujets de cette nature qui sont liés. Je suis très attaché à ce qu'on résolve tout à la fois. On arrive à la fois à développer les investissements étrangers, notamment dans le domaine minier, et en même temps, que l'on puisse arriver au point où l'allègement de la dette internationale de la RDC se fera, vous avez besoin des deux. Le contrat concernant le financement par la Chine et son budget fait partie de ce débat sur les investissements étrangers.
Voilà, donc, entendre justement Dominique Strauss-Kahn, la RDC a besoin des deux. D'un côté, l'allègement de la dette extérieure d'environ 11 milliards de dollars et de l'autre côté les contrats chinois. Comme le dit cet auditeur, on l'a déjà cité, Gilbert de bout en bout, qui dit qu'avec les contrats chinois, on voit déjà un début de solution. Alors professeur, la question, professeur François Kabuya, vous êtes enseignant de macroéconomie à l'université de Kinshasa. Finalement, comment rendre compatibles les contrats chinois et les conditions posées par les FMI?
Écoutez, pour rendre cela compatible, la première des choses, je pense que c'est de faire en sorte qu'on arrive au point d'achèvement. Et le point d'achèvement suppose qu'on puisse mettre en place un programme et qu'on l'exécute de manière plus ou moins satisfaisante. Ça, c'est le premier pas. Le second pas, bien sûr, il faut maintenant voir avec les partenaires chinois les conditions du contrat. Si ces conditions donnent ce qu'on appelle la concessionnalité, c'est-à-dire des prêts à des taux d'intérêt acceptables avec des délais de remboursement qui soient aussi acceptables.
Voilà, donc pour le professeur, il faut privilégier le point d'achèvement. Et puis, côté chinois, il faut essayer de voir les conditions de remboursement. Sénateur Passé Cézati, je ne sais pas, vous qui êtes sénateur, hein, membre du PPRD, et en tant que vice-président de la Commission économique et financière, et même bonne gouvernance au Sénat, qu'est-ce que vous pouvez en dire?
Moi, je pense qu'il n'y a pas incompatibilité entre les deux éléments sur lesquels le gouvernement axe pour pouvoir sortir le pays de la situation que nous vivons aujourd'hui. Moi, le problème de prise
Pour le moment, il y a quand même la crainte, c'est-à-dire,
oui,
c'est de voir que ces contrats, chinois viennent alléger la dette extérieure. C'est ça la crainte. Et ça, Dominique Strauss-Kahn l'a dit.
C'est ça. Moi, je suis d'accord avec vous. La crainte la plus importante est pour tout le monde. Pour FMI, pour nous-mêmes les Congolais, c'est de voir les contrats chinois sous la formule actuelle alourdir les dettes du pays. Alors que nous sommes en train de faire des efforts internes énormes pour qu'on puisse effacer ces dettes, pour nous permettre d'avoir accès à d'autres ressources pour des besoins de développement. Mais là, l'élément le plus important, c'est la disposition intérieure de deux parties qui négocient. Il y a le gouvernement et la partie chinoise. Bon, si aujourd'hui on arrive à trouver une formule conciliante, ça veut dire concrètement, le taux est ramené au niveau concessionnel.
Donc on est de 100%,
peut-être 1 ou 2, je ne sais pas. Tout dépend de la manière de les négocier. Dès qu'on rend ces contrats à des conditions compatibles avec les conditions universelles de prêt de cette nature-là, je ne vois pas que ces contrats chinois puissent constituer un obstacle pour nous. Et puis de deux, FMI est conseiller. FMI est facilitateur.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que vous insistez beaucoup sur ça.
J'insiste là-dessus parce que la décision nous appartient, nous, les Congolais.
C'est-à-dire,
nous pouvons dire à notre conseiller, à notre facilitateur, que voici la voie que nous voulons suivre, et il dira: si vous allez là-bas, voici les conséquences. Si vous allez par ici, voici les conséquences. C'est ce que je veux dire.
On n'a pas d'argent pour le moment, hein, le Congo. On n'a pas d'argent. Il est frappé par la crise.
Je l'ai dit. Nous devons aussi voir le besoin de notre pays, c'est en termes de milliards, pas en termes de millions.
C'est milliards que nous n'a pas aujourd'hui.
On n'en a pas, justement. On cherche. On s'offre des cerveaux pour le chercher. Alors, aujourd'hui, je prends un exemple très simple. Le FMI promet de faciliter l'obtention de 500 millions sur 3 ans. Ça, c'est clair. Mais est-ce que dans le cadre des efforts internes. Nous devons tenir compte de tous ces éléments-là. Nous ne devons pas rester attendre qu'on vienne nous assister. Nous devons mettre la main à poste, nous devons fournir des efforts pour produire des moyens propres à nous. Je donne un exemple
très... Allez-y rapidement.
Oui. Je donne un exemple très simple. Nous venons de mettre sur pied un nouveau type de passeport biométrique qui vont nous rapporter aux environs de 200 millions.
Oui, qui coûte cher, hein,
ça. Oui, dire, hein. Ça doit coûter cher. Alors, nous avons,
même par rapport
il y a de, nous avons des nouvelles plaques minéralogiques. Ça peut nous rapporter de l'argent. Nous venons de voter une loi en rapport avec le plateau continental. Mmh. On va très bientôt en négociation avec l'Angola. Mmh. Là aussi, on peut espérer quelque chose.
Ah, donc, que ça soit encore bien géré.
Justement, nous évoluons vers la bonne gouvernance. Nous devons imposer la bonne gouvernance. Une des conditions pour lesquelles la FMI et d'autres institutions de Bretton Woods vont nous suivre dans notre programme.
Voilà. Donc, on retient qu'il y a ce point d'achèvement qu'il faut absolument atteindre. Et de l'autre côté, les contrats chinois qu'il faut voir se renégocier en termes de remboursement. Mais alors, finalement, professeur François Kabuya, je reviens encore vers vous. Hein. Vous êtes celui qui a jusque-là parlé le moins. En termes simples, professeur, qu'est-ce qu'il faut à la RDC pour qu'elle atteigne le point d'achèvement, justement?
Pour que la RDC atteigne le point d'achèvement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de miracles. La première des choses, c'est d'arriver à conclure un programme et à l'exécuter correctement. Parce qu'en fait, le grand problème que nous éprouvons, c'est celui d'avoir une discipline. Il faudra se souvenir que l'étape est divisée en deux. Il y avait le point de décision qu'on a atteint, je crois, en 2002. Si on avait exécuté correctement le programme qu'on appelait PEC 1, ou PEC tout court, on serait déjà au point d'achèvement, on ne parlerait plus de cette histoire-là aujourd'hui. Donc la question pour nous, c'est une question de discipline. Est-ce que nous sommes suffisamment disciplinés pour gérer correctement nos finances ou pas? Le fonds monétaire, de ce point de vue-là, apparaît un peu comme un gendarme qui est l'esprit tout à fait nécessaire.
Professeur, c'est quoi cette discipline? Qu'est-ce qu'il faut justement pour la RDC puisse être aussi disciplinée que les choses de l'économie?
C'est aussi simple. La RDC vote chaque année un budget avec, bien sûr, des dépenses exécutées, des recettes qu'on attend pour couvrir ces dépenses. Et il est souvent clair que le budget n'est jamais équilibré. Il faut le financer. Et le seul moyen qu'on utilise pour financer ces budgets-là, c'est le financement monétaire, ce qu'on appelle vulgairement la planche à billets. Bon, maintenant, dans la planche à billets, il y a une hauteur qu'il ne faut pas dépasser. Malheureusement, de ce côté-là, les choses ne se passent pas comme on devrait le faire.
Oui, Jean-Lucien Boussard, je vous vois noter pourquoi finalement la RDC doit tout le temps recourir à la planche à billets alors qu'il y a justement cette discipline que lui impose le FMI et qui insiste encore là-dessus.
Non, ce n'est pas une discipline qui devait imposer le FMI, c'est une discipline qui devait caractériser tout gouvernement de la République et toute gestion orthodoxe est basée sur une discipline de gestion aussi. Or, il est avéré qu'au niveau de finances publiques, on a observé que la politique budgétaire n'est pas efficace, au sens que les recettes de l'État ne sont pas maximisées comme il s'est donné. Et il y a beaucoup de fuites de recettes par plusieurs mécanismes, les détournements, la corruption, et donc personne ne sanctionne. D'une part, d'autre part, la politique de la dépense publique, elle n'est pas aussi cohérente qu'on l'aurait souhaité. Vous allez voir dans la structure de la dépense publique, les dépenses politiques sont privilégiés par rapport aux dépenses des productions.
Avec ça, c'est un des problèmes.
Alors, oui,
avec votre train de vie,
c'est tous les trains de vie de votre gouvernement qui touchent 12 000 dollars et qui se tapent des millions de dollars pour pouvoir s'acheter des villas à l'étranger,
à l'intérieur du pays.
Par rapport à vos.
Les députés ont 2 000 dollars
à vos 6 000.
2 000 dollars sans.
Donc, c'est clair. Et donc, là aussi, il y a un vrai problème. La politique de la dépense publique, de la qualité de la dépense publique. Et le professeur l'a dit, lorsque les déficits budgétaire est observé, mais il est financé par quel moyen? Par le recours à la planche à billets, et de manière aussi exagérée que la répercussion sur l'inflation et donc l'économie est manifeste. Mais je voulais rappeler une chose. Mon collègue du Sénat a dit ici que le FMI c'est un facilitateur, c'est vrai, mais pas n'importe quel facilitateur, parce que c'est en situation de crise financière, et pour éviter que les pays membres ne fassent défaut, quel FMI intervient? Mais il intervient en faisant des prêts à ces pays-là, n'est-ce pas? Pour lui permettre de retrouver une stabilité macroéconomique qui, finalement, se décline sur une politique économique qui met en exergue la croissance économique. Et donc, c'est un facilitateur important. C'est pour cette raison que j'estime aujourd'hui que la responsabilité d'abord nationale, en termes de gestion orthodoxe des finances publiques, qui nous permettrait, qui nous aurait déjà permis d'atteindre le point d'achèvement, et aujourd'hui, la problématique des contrats chinois serait posée autrement que telle qui se pose aujourd'hui.
Alors, sénateur Patrice Ezati, vous êtes parlementaire, donc censé faire des contrôles parlementaires, qu'est-ce que vous allez recommander au gouvernement pour atteindre ce point d'achèvement après tout ce qui vient d'être dit?
La tête de point d'achèvement pour notre pays, c'est l'objectif. Et dans le cadre des contrôles, on va recommander au gouvernement absolument par tous les moyens possibles qu'on puisse atteindre ce point d'achèvement.
Oui, mais ce n'est pas un miracle. On a donné des solutions ici par les autres intervenants. Il faut éviter, il faut respecter l'exécution du budget et éviter la
fin de le professeur a bien dit qu'il faut une discipline dans ce que nous voulons.
Est-ce que vous allez recommander cette discipline, même si vous êtes du PPRD? Est-ce que vous allez recommander cette discipline au gouvernement?
Mais le PPRD n'est pas en marge des règles de gestion normale universelle.
Parce que jusque-là, ça manque, on n'atteint pas encore le point d'achèvement. C'est ça le problème.
Le point d'achèvement, c'est un processus qui a commencé, qui évolue, qui se corrige jusqu'à atteindre l'objectif visé, le point d'achèvement. Et c'est un engagement. Il ne faut pas que nous nous mettions à attendre ou bien les planches à billets ou ceci, mais il faut des efforts. Mais avant que l'équipe gouvernementale ne se rende aux États-Unis, ils avaient un gap de 100 millions. Il a fallu des efforts pour le ramener au niveau acceptable, presque, je dirais même négligeable, malgré quelques dépenses additionnelles qu'on a dû faire dans le cadre d'intégration de troupes de CNDP, ainsi de suite. Moi, je recommande plus les efforts des Congolais eux-mêmes. Tout effort extérieur doit venir en appui, pas en principal. Voilà mon problème.
Voilà, il y a des auditeurs qui nous ont écrit. Mamboura de Boutembo estime que c'est important pour la RDC de continuer avec le contrat chinois, car nous assistons à leurs résultats sur terrain. Jacques Assungé de Bukavu pense qu'il est grand temps pour la RDC de redorer son image envers le FMI, au lieu de se laisser distraire par des contrats sino-congolais. Guillaume Brackbett de Mahagi, province orientale, voulait savoir pourquoi le gouvernement congolais s'empresse à ratifier un accord, mais n'arrive pas à satisfaire les besoins d'urgence de la population dans les autres provinces du pays. Gilbert de Boutembo veut savoir ce que perdrait, et il a déjà dit, la RDC, en coupant le pont. Et est-ce que, professeur François Kabuya, vous pensez que la RDC peut aujourd'hui se passer du FMI?
La RDC peut se passer du FMI si effectivement la RDC est discipline, puisqu'il y a des pays qui ne recourent pas au FMI.
Tel que?
Bon, vous allez en Amérique latine, il y a des pays qui ne recourent plus au FMI. Mais nous y allons parce que notre gestion n'est pas une gestion orthodoxe. C'est un problème de discipline. Donc, on n'est pas obligé d'aller au Fonds monétaire. Mais puisque nous avons besoin des ressources, et que ces ressources viennent des partenaires bilatéraux et multilatéraux, ces partenaires ont des règles du jeu qu'il faudrait respecter.
Jean-Luc Yaboussa, par rapport au FMI, vous êtes d'accord avec le prof que la RDC aujourd'hui, c'est presque un prisonnier du FMI?
Non, pas un prisonnier, c'était la RDC est membre du Fonds monétaire international. Et la RDC est passée avec le Fonds monétaire international. Donc il faudrait aujourd'hui arriver à lever la contrainte. Quelle est cette contrainte? C'est un document extérieur de la RDC. Quelle est l'autre contrainte pour la RDC sur le plan interne? C'est lancer un programme économique cohérent qui permette de sortir de la crise multiforme que nous traversons. Mais je voulais, par rapport à un auditeur qui dit on voit les Chinois partout, les gens sont en train de confondre la présence des Chinois bénéficier des marchés publics congolais financés par la Banque mondiale et le Chinois qui travaille par rapport au programme au contrat chinois. C'est deux choses différentes. La plupart des marchés de la Banque mondiale, plutôt les marchés financés par le fonds de la Banque mondiale, sont gagnés par les Chinois. Par contre, il faut maintenant faire la lisière entre le contrat chinois, il s'exécute à quel niveau, et les marchés financés par la Banque mondiale, qui sont gagnés par les entreprises chinoises, sont financés à quel niveau?
Mais comment distinguer ces Chinois-là de ceux qui sont dans les contrats chinois?
Non, mais justement, donc il ne faut pas que la confusion est là, elle est pleine, où lorsqu'on voit un Chinois en train de travailler, on dit voilà les contrats chinois, et pourtant, ils sont en train de travailler sur fonds de la Banque mondiale, je dirais, sur financement de la Banque mondiale, mais les marchés, est heureusement ou malheureusement gagné par les Chinois, parce que le marché de la Banque mondiale priorise d'abord le membre de l'institution Banque mondiale.
Voilà, donc on a suffisamment parlé du point d'achèvement, de comment l'atteindre. Je crois que vous avez suffisamment donné des éléments là-dessus. Mais maintenant, par rapport aux contrats chinois, est-ce que la RDC peut aussi se passer de ces contrats, Isati Patrice Elsinter?
Bon, nous avons dit tout à l'heure que ces contrats, il y avait certains points techniques qui restaient à renégocier. Les Chinois ne sont pas contre la révisitation de ces contrats. Du moins, à ce qui concerne les taux, la durée, tous ces éléments et la garantie. Et il suffit de déterminer sur quelle partie de la dette de financement, la garantie peut porter. Tout ça, il faut, dès qu'on le redéfinit, je crois que les contrats peuvent devenir potables, entre guillemets. Alors, dans l'ensemble, je donne un exemple très simple. Vous avez dit tout à l'heure que est-ce qu'on peut se passer de FMI? Notre pays fait partie des 185 pays qui sont membres de FMI, y compris les Chinois également, comme mon collègue honorable Boussa a dit ici. Mais il y a, dans l'esprit du public, les contrats chinois et la présence des Chinois dans les cadres de marché gagnés dans les cadres de projet de la Banque mondiale, c'est tout à fait des choses différentes. Mais le Chinois, pourquoi on voit aux Chinois le diable dans les contrats chinois? Alors que ces Chinois est partie prenante intégrante des fonds monétaires internationaux. Alors, tous ces problèmes doivent une explication pour que le public comprenne. Pour que le public comprenne dans quel côté se trouve l'intérêt du pays. Raison pour laquelle moi, personnellement, je mets au centre les efforts. Avec les professeurs, je suis d'accord, la discipline interne. Tout ce qui vient de l'extérieur, c'est à être en appui, mais pas en substitut. C'est très important. Et si nous n'avons pas cette discipline des efforts internes, nous-mêmes, si nous ne pilotons pas des initiatives de nous-mêmes, nous serons nulle part. Pas plus tard qu'il y a quelques années, Mouzé a géré ce pays pendant plus de 2 ans.
Vous voulez parler de Laurent Désiré Kabila?
Tout à fait. Et il a géré ce pays sans aide extérieure. C'est une question de discipline. Donc, les disciplines apportées ces produits. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on recommande dans le cadre de la gestion de la chose publique, une certaine discipline, la bonne gouvernance qu'on recommande à tous les niveaux, que les institutions nous reprochent, c'est qu'il faut une discipline qui va aboutir à une bonne gouvernance. La bonne gouvernance va faire couler tout le reste des avantages que nous recherchons.
Voilà, il y a encore une autre série de réactions qui nous arrivent. C'est notamment Roger Bokifou qui nous écrit de Kisangani. Il estime que notre gouvernement est rattrapé dans le flou, qu'il a entretenu autour des contrats avec les Chinois. Tant l'opposition avait dénoncé le contrat suivi de l'Assemblée nationale qui a formulé des recommandations, le gouvernement a brandi la souveraineté de notre pays. Aujourd'hui, que le FMI émet des réserves pour conclure un accord, le gouvernement va-t-il revoir ses contrats avec les Chinois? Je m'arrête d'abord là, un petit commentaire avec Boussa, je vous vois, vous êtes très content parce que l'auditeur vous rejoint.
Je ne suis pas content, c'est une question de responsabilité. L'opposition est une opposition républicaine. Et lorsque des questions importantes viennent se poser à la République, l'opposition a le droit d'élever la voix. Et à l'époque, nous avons même refusé de voter, n'est-ce pas, avec les collègues, l'accord sur le contrat chinois. Pour des raisons que la Banque mondiale, plutôt pour les mêmes raisons que les fonds monétaires internationaux viennent d'indiquer au gouvernement. Donc ceci est très clair. Auriez-vous accepté que je puisse considérer aussi la question que vous avez posée par rapport au contrat chinois?
Est-ce
que la RDC peut s'en passer du contrat chinois? Mais je dirais, contrat chinois, comme possibilité pour la République démocratique du Congo de bénéficier de financements extérieurs à des conditions concessionnelles
C'est-à-dire,
qui ne sont pas exorbitants, qui ne pèsent pas trop lourd sur la dette de la République démocratique du Congo et qui ne nous renvoient pas à une responsabilité ou à une charge intergénérationnelle. Or, dans ces conditions, dans les cas précis, le contrat a été signé dans des conditions très drastiques et on ne peut pas l'accepter. Deuxièmement, mais est-ce qu'il y a une autre alternative au contrat chinois? Mais oui, l'alternative, c'est que la Chine accepte de pouvoir réduire les conditions qu'elle a posées et faire disparaître la garantie de l'État. Si la Chine baisse ses taux de prêt à 1% ou moins d'un pour cent, mais en même temps qu'il n'y a pas de garantie de l'État par rapport à cela, mais c'est tant mieux pour la République démocratique du Congo.
Voilà, Benoît Fungula nous écrit de l'ISP Kikwit. Il est sûr que l'ESMI est une institution internationale chargée, dit-il, de clouer la RDC. Pour lui, il faudrait que les dirigeants congolais refusent de faire de nouveau coloniser par les Occidentaux. C'est lui qui le dit. Il pense que les contrats chinois sont salutaires pour la RDC, contrairement aux vues du FMI. Professeur François Kabouya, vous êtes d'accord avec Benoît Fungula?
Moi, je suis pas du tout d'accord. Moi, j'ai l'impression que dans ce débat, il faut dépassionner un peu les choses. Nous autres Congolais, nous avons souvent cette attitude-là de penser que les autres nous en veulent. Le Fonds monétaire international, c'est une institution avec des principes, des règles du jeu. Quand nous y allons, nous sommes censés connaître ces règles du jeu-là. Donc, c'est à nous de savoir jouer en adulte.
Voilà, il faut savoir jouer un adulte. Il y a cet auditeur de Kinshasa, et lui, il estime que les contrats chinois sont salutaires pour le développement du Congo, contrairement aux aspirations du FMI, évidemment. Il rejoint ce que venait de dire Benoît Fungula. Père Xenon de Kisangani voudrait savoir si actuellement on peut dire que la RDC est indépendante face au FMI. Patrice Zati, sénateur.
Je crois que pour faire tel jugement, ce serait aller vite en besogne. Nous avons dit au départ que nous sommes à la recherche des capitaux pour notre développement. Nous pouvons avoir de ces capitaux auprès des amis qui veulent bien, c'est une question d'intérêt, qui veulent bien nous venir en aide dans le cadre de financement de nos infrastructures, financement de tous nos besoins de l'économie. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à la crise. Cette crise ne vient pas de la République démocratique du Congo. Cette crise part des États-Unis. Je vais parler de crise financière. Oui, une crise financière internationale. Ça part des États-Unis. Mais nous avons les effets de la crise en pleine figure. Pourquoi? Parce que nous sommes parmi les pays, si pas les pays, dont les richesses provenaient essentiellement de matières premières.
C'est terminé.
Et maintenant, il y a eu des chutes brutales de toutes ces matières. Ce n'est que normal que nous subissions les effets de la crise plus que tout le monde. Mais sur ce point précis, avec qui nous sommes, je veux dire nos partenaires bilatéraux traditionnels, devaient avoir un regard attentif vis-à-vis de notre pays pour les cas précis de la crise économique et de la crise financière. Parce que ça ne vient pas de nous, ça vient des États-Unis. Il y a même quelqu'un qui a dit dans une des conférences récemment tenues en Suisse, comme quoi il fallait une action contre ceux qui ont déclenché cette crise au niveau de la Cour pénale internationale. Donc c'est pour vous dire que nous sommes là, la crise est réelle et il faut qu'on tienne compte de ça dans le cadre de nos rapports entre les pays membres de l'institution de Bretton Woods.
Il faut toujours savoir aussi prévenir les crises, hein, pas sénateur.
Bon, je ne sais pas.
Quand tout va bien, je sais pas.
Oui, on peut parler des crises agricoles, hein? Crise alimentaire, crise agricole, on peut le prévenir.
Mais financière, hein, mais aujourd'hui, il n'y a plus de devises à la banque aujourd'hui.
Pardon?
Aujourd'hui, il n'y a plus de devises à la banque. Vous allez vous en prendre au FMI ou...
Mais les devises viennent des exportations.
Oui, mais il faut savoir
déjà la production. Il faut la production. Mais c'est pour cela que j'ai dit, nous devons avoir une discipline pour la production des efforts locaux.
Voilà, nous sommes pratiquement à la fin, il me reste juste quelques secondes, je vais vous demander de passer juste un petit mot, en quelques secondes pour terminer. Professeur François Kabouya, juste en 10-15 secondes, hein, un dernier mot sur ce thème.
Je voulais tout simplement saisir cette opportunité pour dire que, à quelque chose malheureux, bon, nous avons ce problème de contrat chinois, nous avons ce problème de crise financière internationale, si nous avons été affectés par cette crise, justement, c'est parce que nous mettons toujours l'accent sur l'industrie minière. Pourquoi ne pas profiter de ces circonstances pour faire en sorte que le secteur agricole soit développé. Voilà. Les infrastructures qu'on va faire dans les cas de contrats chinois sont de nouveau orientées vers les mines. Voilà. Donc, nous allons toujours dans le même problème.
Voilà, merci professeur François. Un petit mot, Jean-Lucien, avant de terminer.
Oui, il faut absolument des politiques cohérentes, des politiques économiques cohérentes, des politiques budgétaires cohérentes aussi, mais en même temps, il faut mettre en exergue la nécessité des bonnes gouvernances et la lutte contre la corruption.
Un mot, sénateur Isaac.
Oui, juste un mot, Jean-Claude. Je crois que nous venons de tout passer en revue. Ici, c'est une question de vie ou de mort pour nous dans le cadre des points d'achèvement et essayer de retravailler ces contrats chinois afin que ne
voilà.
Pas tenir bénéfice.
Merci à vous, c'est la fin de cette émission. Mimi Kindou était la technique. Alain Roux, Kéline Kousegui, Maté, Samuel Sakchak, Martin Sebujangwe et Jean-Claude Toumba Kamanga. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Oh, Cathy, oh, Cathy.